Donc le prochain orateur, c'est le professeur Serge Herzberg de Bobigny, donc INSERM-INRA, et il va nous parler donc du plan national nutrition et santé. Voilà, un plan de santé publique pour améliorer les apports et l'état nutritionnel de la population.
Merci beaucoup, Robert. Je voudrais à mon tour remercier André Cicolella et les organisateurs pour leur invitation et pour me donner l'opportunité donc de vous donner quelques éléments d'information sur ce qu'on appelle le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, donc un plan de santé publique qui vise à améliorer les apports et l'état nutritionnel de la population et qui n'intègre pas jusqu'à présent la dimension de l'environnement chimique. Et je le remercie d'autant plus que nous nous posons des questions sur la façon pour le futur d'intégrer cette dimension et que je crois qu'on a là une bonne opportunité au travers de cette manifestation et surtout les suites de cette manifestation, eh bien, d'avoir des moyens d'articuler notre plan avec les acteurs et les structures qui s'impliquent bien sûr sur la connaissance et la traduction de cette connaissance en application en ce qui concerne donc l'environnement chimique. Donc, permettez-moi juste un tout petit peu d'histoire pour rappeler que le PNNS a aujourd'hui 12 ans. Il est né en 2001, mais en fait avec une gestation bien plus ancienne, puisque dès 1998, avec Arnaud Badevant et un certain nombre de collègues, un groupe de travail mandaté par le ministère de la Santé devait réfléchir aux objectifs de santé publique à mettre en place pour améliorer l'état nutritionnel, l'état de santé de notre population. Ce premier rapport, et il faut le remarquer, tous les rapports n'aboutissent pas à des placards ou des poubelles, a été suivi par un deuxième rapport, le rapport du Haut Comité de la Santé publique, qui cette fois a réfléchi aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qui avaient été fixés dans le cadre du précédent rapport. Et ce deuxième rapport a aussi une vie, puisqu'il s'est traduit par la mise en place d'une politique nutritionnelle de santé publique en 2001 avec une première version du PNNS qui a duré 5 ans, suivie d'une deuxième version 2006-2010 et un prolongement sur la période 2006-2015 avec deux éléments nouveaux. D'abord, un, c'est l'introduction dans le Code de la santé publique de la politique nutritionnelle de santé publique. Donc c'est un élément extrêmement déterminant puisque est gravé dans le marbre de la République la volonté de développer et de pérenniser cette politique nutritionnelle de santé publique. Et puis l'articulation du PNNS avec un plan obésité, piloté également par Arnaud Badevant, avec la volonté de booster des éléments qui étaient dans le PNNS mais qui nécessitaient d'être réactivés, notamment ce qui concernait la prise en charge de l'obésité et la recherche. Et puis il y a un autre élément qu'il faut également rappeler, c'est que le PNS3 et le PO ont également une déclinaison outre-mer qui n'avait pas été jusqu'à présent développée. Alors, pourquoi a été mis en place une politique nutritionnelle de santé publique? Il y a de multiples raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Bien sûr, il y avait au début des années 2000 l'épidémie d'obésité qui apparaissait, qui était largement médiatisée, qui s'est accompagnée d'une demande sociétale forte. À cette demande sociétale s'est conjuguée les connaissances scientifiques qui, depuis 10 ou 15 ans, avaient profondément évolué, donc leur traduction sous une forme d'application avec donc une volonté commune de mettre en place des actions de santé publique pour essayer d'améliorer la santé de l'ensemble de la population, donc en agissant sur ce déterminant majeur qu'est la nutrition, et dans le cadre de la prévention des grandes maladies chroniques qui sont rappelées ici. Et comme ceci a déjà été évoqué par André Cicolella et par Étienne Cagnard, sont des maladies qui ont un coût humain extrêmement important, mais un coût social et économique également extrêmement important. Et dans une époque où on se préoccupait déjà des problématiques de dépenses de santé, c'était un argument, bien sûr, qui était entendu notamment donc des politiques. Donc un programme a été mis en place, pragmatique, même si il visait à améliorer l'état de santé de la population. Il s'est fixé des objectifs chiffrés, atteignables, mesurables dans le temps, et chaque étape de 5 ans a été suivie par une évaluation pour essayer de faire évoluer ce programme en fonction de l'atteinte ou de la non-atteinte des objectifs. Alors, je voudrais juste rappeler que le PNNS, c'est un vrai programme de santé publique dans ce sens qu'il il associe un ensemble d'actions, de mesures, de régulations, voire de réglementations qui sont à la fois synergiques et cohérentes. Aucune action à elle seule est efficace, mais la complémentarité, la synergie, la cohérence de ces actions peut permettre d'atteindre, on l'espère, les objectifs qui sont fixés. C'est un plan qui donne un cadre de référence au niveau national. On sait bien que la santé publique, ça n'est pas simplement un discours fait à un niveau national, c'est en fait la capacité que les acteurs de terrain s'accaparent ce programme et le décline au plus proche de la population. Et donc, on a toujours souhaité une articulation entre le niveau national et le niveau régional, avec pour ce cadre de référence la fabrication d'outils qui soient validés et qui permettent à l'ensemble des acteurs de terrain de pouvoir donc déconcentrer et au plus proche de la population agir. C'est un programme qui s'appuie sur des principes fondamentaux dans lequel la nutrition est replacée dans le contexte du plaisir, de la convivialité, du partage, de la tradition, donc très lié à des valeurs emblématiques, particulièrement dans notre population française, mais qui est vrai un peu partout, avec une volonté à la fois d'être peu prohibitionniste et plutôt positif, pas d'interdit, mais avec tout de même le souhait de fournir aux consommateurs une information qui soit valide et compréhensible et des messages qui soient adaptés au mode de vie. C'est un plan qui est multisectoriel, qui associe d'ailleurs de nombreux ministres, au moins de nombreux ministères, malheureusement pas toujours les ministres, mais au moins de nombreux ministères dans les organismes qui assurent la gouvernance de ce programme. Et au cours du temps, il a évolué en élargissant un peu l'assise des différents ministères. Il est coordonné par le ministère de la Santé, mais il associe l'ensemble des ministères concernés. Il est à noter d'ailleurs que jusqu'à présent, le ministère de l'écologie n'est pas associé dans le comité de pilotage de ce programme. C'est un des points sur lesquels on aura l'occasion sûrement de revenir. C'est un programme également qui est multi-approche, qui vise à agir, comme Arnaud Balvan l'a rappelé, à la fois sur les comportements alimentaires et sur l'environnement, alors pas l'environnement chimique, mais l'environnement physique et alimentaire. Donc il y a des actions qui visent à jouer sur les comportements dans le champ de la communication, de l'éducation, de l'information, dans le champ de la formation et notamment des professions relais, et puis agir sur l'offre alimentaire, donc ce qui n'est pas obligatoirement dépendant du consommateur, à la fois en termes de qualité nutritionnelle des aliments, d'accessibilité, de disponibilité pour l'activité physique, agir sur l'environnement physique. Et Arnaud Balvan l'avait rappelé, tout ce qui concerne l'urbanisation, la capacité de traduire l'activité physique dans la vie quotidienne est au cœur des préoccupations du programme depuis son départ et a été en augmentant au cours du temps. C'est également un programme de santé publique multi-cible qui vise à la fois bien sûr le grand public, mais aussi particulièrement les groupes à risque qui implique les professions relais, les acteurs du champ de la santé, mais on sait bien que la nutrition ne dépend pas que du domaine de la santé, donc également les acteurs de l'éducation, du monde du social, les collectivités locales et territoriales, le monde associatif et bien évidemment les opérateurs économiques. Alors, je ne vais pas passer en revue l'ensemble des actions, elles sont multiples et nombreuses et ce serait fastidieux. Juste quelques exemples. Alors l'axe communication, qui est la partie visible de l'iceberg du PNNS, celle qu'on connaît le mieux au travers des guides, des campagnes d'affichage, des spots télévisés, des encarts dans la presse ou du site Internet. Donc de très nombreuses campagnes ont été développées depuis le lancement du PNNS avec dans la diffusion, une diffusion assez massive, si on regarde les guides alimentaires qui traduisent les objectifs de santé publique dans la vie quotidienne des consommateurs, eh bien des guides alimentaires très pratiques ont été très largement diffusés. Il y a près d'une trentaine de millions de guides alimentaires qui ont été diffusés depuis la mise en place du PNNS, soit touchant l'ensemble de la population, soit des groupes particuliers. Chacun d'ailleurs de ces guides alimentaires a été accompagné d'un guide spécifique pour les professionnels, notamment de santé. Communication difficile dans un contexte où, en face de la communication institutionnelle, il y a la publicité. Il a été rappelé que la publicité est aussi un des déterminants des comportements alimentaires. Alors ça, c'est un des échecs du programme national de nutrition santé, de ne pas avoir réussi à réguler de façon plus adaptée la publicité. La traduction qui a été faite du débat public qui a eu lieu il y a quelques années, c'est que les parlementaires ont proposé des messages sanitaires qui accompagnent les publicités, à la fois télévisuelles, mais également sous d'autres formes, avec des messages que j'imagine vous connaissez bien, auxquels l'exposition a été très forte. D'ailleurs, ils vont bientôt être modifiés, car depuis quelques années, ils finissent par être suffisamment entendus. Et quand on regarde d'ailleurs sur la base des guides alimentaires, sur les campagnes médiatiques et les repères de consommation, on voit que le catéchisme alimentaire, c'est-à-dire la capacité de reconnaître les slogans, est bien connu. Vous voyez que pour le slogan « moins 5 fruits et légumes par jour », on partait très loin. Le baromètre nutrition au début des années 2000, 2,5% de la population était capable de citer ce repère de consommation. Il a augmenté au travers le temps, particulièrement d'ailleurs depuis l'apparition des messages sanitaires. Et vous voyez qu'aujourd'hui, une grande majorité de la population est capable de reciter ce repère de consommation. C'est vrai pour la plupart des repères de consommation qui ont été médiatisés, ça l'est moins pour ceux qui n'ont pas fait l'objet de grandes campagnes. Alors, évidemment, le fait de connaître un slogan et d'être capable de citer le repère ne veut pas dire qu'on le met en pratique, mais c'est un élément de connaissance tout de même non négligeable. Alors le PNS, c'est de la communication, mais il y a aussi beaucoup d'autres actions. J'ai pris quelques exemples pour l'illustrer, notamment ce qui concerne le milieu scolaire, visant donc l'enfant, tout ce qui concerne la pédagogie, et fournir des outils notamment aux enseignants pour mieux faire passer les messages, fournir aux professionnels de santé dans le monde scolaire également des outils à la fois d'information ou de diagnostic et de capacité donc de dépistage d'un certain nombre de problématiques de santé. Puis il y a tout ce qui concerne l'offre et l'environnement alimentaire, une circulaire sur la restauration scolaire qui s'est traduite il y a maintenant un peu plus de 3 ans par une loi impliquant donc une prise en compte de la dimension nutritionnelle dans l'offre alimentaire en restauration scolaire, même si aujourd'hui on est un peu inquiet dans le cadre des simplifications administratives, enfin une simplification des normes, une remise en cause de cette proposition. Et puis il y a d'autres exemples que vous connaissez peut-être, la suppression de la collation matinale à l'école qui était très peu adaptée. Et puis la suppression des distributeurs automatiques payants, évitant d'avoir une discordance entre le discours des enseignants et puis la sortie à la récréation avec une offre alimentaire très ciblée sur des produits de snacking. Alors il ne s'agissait pas du tout d'interdire ces produits, mais l'enceinte scolaire n'était peut-être pas le monde le mieux adapté pour favoriser cette offre. D'autres exemples de la diversité des actions du PNS, il y a tout ce qui concerne tout de même les outils qui ont été développés pour les professionnels de santé, outils aidant à l'évaluation et la prise en charge de l'état nutritionnel, donc qui ont été très largement diffusés. Vous en avez quelques exemples sur cette diapositive. Et puis action également alors sur l'offre alimentaire, cette fois on n'est plus sur les comportements alimentaires, comment agir sur l'offre alimentaire des industriels. Ce qui a été proposé, c'est des chartes d'engagement de progrès visant à pousser les industriels à s'engager dans une démarche pour améliorer la qualité nutritionnelle et les conditions de commercialisation des produits alimentaires. Donc un référentiel a été proposé pour pousser les industriels à rentrer dans une démarche vertueuse visant à améliorer la composition nutritionnelle, notamment en termes de sel, de glucides simples ajoutés, de graisse et de fibres, mais également jouer sur la taille des portions, la présentation des produits, la confection des menus pour la restauration collective, la communication et la publicité, notamment vers les enfants, l'organisation des lieux de vente pour la grande distribution et surtout favoriser l'accessibilité de produits aux populations défavorisées, donc avec une offre alimentaire de base qui soit améliorée sans impact économique pour la rendre accessible aux populations les plus défavorisées. Alors, selon qu'on est optimiste ou pessimiste, on trouvera que 35 signataires, c'est peu ou c'est beaucoup, mais c'est tout de même quelque chose qui est une démarche qui se met en place et qui s'accompagne d'effets mesurables. Si on regarde l'impact global sur le marché des produits qui se sont engagés, qui se sont améliorés compte tenu de ces chartes d'engagement de progrès, eh bien chaque année, vous voyez, qui est retiré du marché sans que le consommateur s'en rende compte, car les produits alimentaires gardent leur palatabilité, eh bien c'est un peu moins de 1700 tonnes de sel, plus de 9000 tonnes de sucre, plus de 7000 tonnes de lipides et plus de 2300 tonnes d'acides gras saturés qui sont en moins mis à la disposition donc des consommateurs dans les mêmes produits, puis plus de 283 tonnes de fibres. Donc des effets qui sont tout de même encourageants, même s'ils restent jusqu'à présent encore sûrement trop limités. Alors, autre type d'action, entendant une mobilisation qui permet de jouer sur l'environnement, et notamment l'environnement physique, c'est l'implication des collectivités locales en signant des chartes d'engagement avec des différentes collectivités locales. Donc jusqu'à présent, des chartes d'engagement ont été signées avec des villes qui s'engagent à développer des actions visant à tendre vers les objectifs du PNNS. Il y a près de 300 villes qui ont signé ces chartes. Des départements actifs, il y en a 6 à ce jour, et bientôt donc sera proposé des chartes d'engagement qui visent les régions. Donc par la possibilité d'associer ville, département, région, on a l'opportunité notamment d'agir sur tout ce qui est le secteur de la restauration scolaire à l'école, dans les collèges, dans les lycées et les universités, puis la possibilité d'agir sur l'environnement physique. Donc c'est une démarche forte. Bientôt sortira également des chartes d'engagement pour les entreprises, alors cette fois qui ne visent pas les entreprises du champ de l'agroalimentaire, mais les grandes entreprises qui souhaitent mettre en place des actions pour agir au niveau de leurs salariés, en essayant donc d'améliorer une approche assez globale qui touche à la fois l'offre alimentaire dans les entreprises, l'offre d'activité physique, l'information, la communication et la prise en charge. Alors tout de même, tout ceci aboutit à des résultats. On a un certain nombre d'évaluations qui montrent un certain nombre de signes encourageants sur les comportements alimentaires. Voici un exemple tiré de l'analyse de deux études faites à 7-8 ans d'intervalle par l'ANSES, qui montre que pour les fruits et légumes, à la fois, enfin ici pour les fruits, on a une augmentation globale de la consommation de fruits entre le début des années 90 et Donc on a à la fois une amélioration globale de la consommation de fruits avec une augmentation de produits transformés réellement à base de fruits, et donc quelque chose qui est plutôt encourageant. Et je ne vais pas vous passer en revue tous les résultats de ces études qui sont basées à la fois sur l'étude INCA et l'étude ENNS, mais disons globalement ce que l'on tire de l'ensemble des informations sur l'évolution des comportements alimentaires depuis la mise en place du PNNS, c'est que les fruits donc, ont augmenté chez les adultes et les adolescents, mais ils restent encore insuffisants pour des larges fractions de la population, notamment les populations les plus défavorisées. On a une baisse globale de la consommation des produits animaux, viande et lait, une diminution de la consommation des boissons alcoolisées chez les adultes, mais là encore avec des consommations trop élevées, une réduction des apports de sel, mais on est encore loin des niveaux considérés comme optimum pour la santé. On a une stabilisation des apports énergétiques chez les adultes, une légère baisse chez les enfants de moins de 14 ans, mais une alimentation qui reste encore trop riche en graisses et en glucides par rapport aux recommandations, et trop pauvre en fibres. Mais donc, vous voyez, il y a des résultats mitigés avec certains points encourageants et d'autres qui nécessitent de prolonger les actions. Un autre exemple, puisque le PNNS touche à la fois la consommation alimentaire, mais tout un tas d'autres aspects liés à la nutrition. Si on regarde le taux d'allaitement en maternité, vous voyez que depuis la mise en place du PNNS, on a une augmentation du nombre de femmes qui allaitent à la maternité, malheureusement pas suffisamment longtemps, mais là encore, ces éléments sont assez encourageants et amènent à recadrer la suite des actions sur la façon peut-être d'obtenir des résultats plus à long terme de l'allaitement. En ce qui concerne l'obésité, bien, ceci a été rappelé, on a vécu, donc, comme beaucoup d'autres pays, une augmentation, et on continue à la vivre, de l'obésité, de la prévalence de l'obésité chez les adultes et puis, bien sûr, chez les enfants. Je vais aller vite. Vous voyez qu'elle a augmenté. Ce qui est un peu aussi encourageant, c'est que depuis 3 ans, elle continue à augmenter, mais à un rythme un peu plus lent, ce qui est plutôt favorable. Et surtout, peut-être signe encourageant, c'est près de un peu moins d'une dizaine d'études aujourd'hui, mais qui sont toutes convergentes pour montrer que la prévalence du surpoids et de l'obésité chez l'enfant, et notamment chez le jeune enfant, se stabilise, voire diminue, avec des disparités sociales qui restent importantes. Mais même si ce qui est encourageant, c'est cette tendance, vous voyez qu'il reste encore beaucoup de travail compte tenu de la prévalence encore extrêmement élevée du surpoids et de l'obésité. Alors pour conclure, peut-être revenir sur la volonté aujourd'hui du PNNS 3 de se placer dans une forte dimension interministérielle. Il a une articulation naturelle et efficace avec le plan obésité qui a permis des très grandes avancées dans le domaine de la prise en charge de l'obésité. Mais là, c'était naturel et ancien. Mais il s'articule également avec de nouveaux, de façon nouvelle, avec des programmes qui, eux, sont parfois anciens et qui impactent la composante nutrition. Donc le programme national pour l'alimentation du ministère de l'Agriculture, le programme pour la santé des élèves du ministère de l'Éducation nationale, le plan national santé-environnement, alors pas encore sur les aspects d'environnement chimique, mais sur les mobilités douces, par exemple, puisque là, on a trouvé, bien sûr, des liens naturels, le programme alimentation-insertion, le plan cancer, et vous comprenez que, dans mon discours, notre souhait, c'est de réfléchir à comment s'articuler avec la stratégie nationale, notamment pour les perturbateurs endocriniens, sachant que dans les leviers stratégiques du PNS, il y a tout ce qui concerne l'information, la communication. Et quand on dit aux consommateurs, mangez plus de fruits et légumes ou mangez de telle façon, s'il a des craintes sur la qualité toxicologique, sur la qualité chimique de ces produits, on risque d'être contre-productif. Donc, au-delà de l'amélioration des connaissances scientifiques qui nous amène à réfléchir à intégrer cette dimension de l'environnement chimique dans le PNNS, il y a de toute façon, par rapport là aussi aux demandes des consommateurs, la nécessité pour notre information d'avoir une information crédible et donc qui soit entendue par les consommateurs. De la même façon, on vise à améliorer l'offre alimentaire. Alors, pour l'instant, c'est en termes de nutriments, mais il est intéressant de voir l'articulation qu'il doit y avoir auprès des pressions qu'on peut faire sur le monde industriel, le champ de la production, de la transformation et de la distribution pour intégrer cette dimension chimique. Il y a bien sûr tout ce qui concerne pour nous la problématique du dépistage et de la prise en charge des troubles nutritionnels. Là, des programmes portant ont lieu pour l'obésité. On dépistait, on ne savait pas quoi faire. Avec les retombées du plan obésité, un système se met en place pour assurer qu'au-delà du dépistage, on soit capable d'agir. Et puis là encore, la formation des professionnels de santé, où là on retrouve sûrement des points communs articulés dans la formation à la fois à la nutrition au sens traditionnel, mais également à la prise en compte des facteurs environnementaux. Et puis il y a tout un volet de surveillance et d'évaluation pour assurer le pilotage opérationnel du programme, où là encore, les grandes études qui se mettent en place commencent à intégrer à la fois cette dimension nutritionnelle et environnementale. Et je vous inviterai, si vous le souhaitez, à consulter pour en savoir plus, donc le site du ministère de la Santé, où vous retrouvez à la fois le programme national nutrition santé et toutes ses articulations, notamment avec le plan obésité. Je vous remercie de votre attention.